Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Roussillon.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau carnet de région, ce journal d'actualité régionale proposé par plusieurs radios associatives du Languedoc Roussillon. Et pour ce mois-ci, c'est Radio Escapade à Saint-Hippolyte-du-Fort qui est chargée de sa mise en onde. Au sommaire de cette semaine, nous parlerons d'éducation à Béziers lors d'un rassemblement en fin de semaine dernière à l'appel d'étudiants biterrois, mais aussi d'agriculture avec une motion prise par la Chambre d'agriculture du Gard concernant le certificat d'obtention végétale. On ira également dans l'Aude pour parler d'emploi et enfin à Alès pour la remise du prix littéraire Le Cabri d'Or pour cette année 2013. Mais on commence tout de suite ce carnet de région à Carcassonne, plus précisément au Pôle emploi, qui accueillait mercredi des signatures de chartes qualité entre l'agence locale et des entreprises du Carcassonnais. L'enjeu majeur est de booster l'emploi par l'amélioration des démarches, de la communication et des projets humains portés par les entreprises. Reportage de Nathalie Dessous de RCF Pays d'Aude.
Dirigé par Jacques Saintenac, l'agence Pôle emploi de Carcassonne en plein effort de qualité. Une dizaine de chartes qualité par an sont signées avec des entreprises locale depuis quelques années, et ce mercredi dernier il avait lieu deux signatures. La première signature entre Pôle emploi Carcassonne, M. Saintenac, et l'entreprise de bâtiment Escourou.
Aujourd'hui, l'entreprise Escourou et Pôle emploi ont voulu formaliser le travail qu'ils faisaient depuis de nombreuses années, donc par la signature d'un contrat de service qualité qui fixe des engagements des deux parties. Donc Pôle emploi s'engage à informer l'entreprise des modifications en termes de mesures, d'aide à l'embauche, de formation possible, et l'entreprise Escourou s'engage à nous confier ses recrutements et nous donner des informations sur l'évolution de l'entreprise et ses besoins.
Monsieur Escourou, des recrutements qui sont nombreux, fréquents dans votre entreprise ?
Alors le contexte économique étant ce qu'il est, effectivement les besoins existent mais sont moins volumineux qu'ils ne l'étaient les 4 ou 5 dernières années. En revanche, nous avons le besoin affirmé de renouveler nos compétences et nous le formalisons au travers de recrutement de jeunes candidats accompagnés par des tuteurs chefs de chantier qui ont un potentiel d'évolution. Et nous avons aussi en parallèle du recrutement, alors là c'est une personne qui est en cours de recrutement en ce moment et Pôle emploi vient d'être sollicité sur un poste d'un bon niveau, assistant études de prix. Voilà. Donc on est sur le panel complet de compétences étam et ouvriers.
Un deuxième partenariat qualité était signé ce mercredi entre Pôle emploi Carcassonne, M. Saintenac, et l'entreprise Le Trenel. C'est un chantier d'insertion dirigé par M. Ponce. Le directeur régional Pôle emploi avouait l'urgence de soutenir aujourd'hui l'insertion.
Oui, très motivé puisque notre région, vous le savez, est une des régions les plus pauvres de France avec des publics parfois très éloignés de l'emploi, avec un chômage longue durée qui augmente très rapidement. Or, toutes les structures d'insertion par l'activité économique représentent une modalité fiable et efficace de retour à l'emploi de publics qui, par essence, en sont parfois très très éloignés ou avec des fortes difficultés. Je suis heureux de signer avec une structure d'insertion, parce que c'est l'occasion pour moi de mettre en valeur le travail que ces structures font au quotidien.
Monsieur Ponce, Jean-Marc Ponce, vous êtes directeur du Trenel. Donnez-nous des précisions sur ce récent certificat que vous avez pu obtenir, qui fait du Trenel en quelque sorte une espèce d'institut de formation aussi, quoi.
On est en expérimentation avec le réseau Chantier École sur une certification de qualification professionnelle, branche ACI, donc tout ce qui touche à l'insertion. Nous, on travaille la certification sur agent polyvalent de restauration et agent commercial à magasin. Voilà, donc on est en expérimentation sur 2 ans pour qualifier les personnes qui passent sur la structure. On a un projet pour début avril, le lancement d'un restaurant en centre-ville Carcassonne, voilà, qui serait une entreprise d'insertion et qui serait également une passerelle du chantier vers la restauration plus traditionnelle, voilà, avec des postes en salle, en cuisine et en plonge.
Nous tournons cette année à peu près à un peu plus de 60% de sorties définies comme dynamiques, donc vers une qualification, vers des poursuites de parcours et vers un emploi, que ce soit de transition ou un emploi plus long, au-delà de 6 mois.
À noter donc pour le début du mois d'avril 2014, l'ouverture d'un restaurant, le Trenel. Il sera situé rue du Pont-Vieux à Carcassonne.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Direction l'université de Béziers maintenant, où cette antenne de l'université Montpellier 3 est menacée de fermeture à la rentrée prochaine. Une annonce récente de la présidente de l'université Anne Freys pour cause de déficit budgétaire, moins 3 millions d'euros par an, et ce sur l'ensemble des sites universitaires montpelliérains et biterrois. Anne Freys, qui a autorité sur le sujet depuis la loi sur l'autonomie des universités, a entamé un bras de fer avec la ministre de l'enseignement supérieur Geneviève Fioraso pour que l'État augmente les dotations allouées à l'université. Et pour l'heure, c'est Béziers qui trinque, 700 étudiants sont concernés, dont Clémence Marcoing, 21 ans, étudiante en histoire, qui dénonce au micro d'Adrien Delgrange de Radio Pays d'Hérault le peu d'informations sur cette éventuelle fermeture.
La situation actuelle, c'est on ne sait pas. On n'est pas du tout au courant, on n'est pas du tout informé. En tant qu'étudiant, on ne sait rien. Il y a un réel mépris des étudiants parce qu'on ne sait pas. On a quelques mails qui nous informent, qui nous disent que normalement la fac va être sauvée, qu'ils vont tenter de sauver, mais en fait, on ne sait pas du tout où ça en est pour le moment.
Et vous, en tant qu'étudiant, de quelle manière vous comptez-vous défendre ?
Alors là, pour l'instant, on distribue des tracts. Donc là, on a distribué des tracts, par exemple, pour cette réunion. On a essayé de mobiliser des personnes. Et là, donc, on a fait signer une pétition également, qu'on va envoyer au ministère. Et là, la seule chose qu'on va faire pour le moment, c'est peut-être même se manifester et commencer vraiment à se faire entendre. Parce que là, pour l'instant, on n'est pas encore assez entendu.
À Béziers, c'est l'Union Générale contre la fermeture de l'université. Élus de tous bords politiques sont aux côtés des étudiants. En fin de semaine dernière, lors d'un rassemblement, de nombreuses personnes anonymes sont venues apporter leur soutien.
Il faut donner tous les moyens à la jeunesse. Et en fermant l'université, on fait tout le contraire.
En fait, c'est un simple calcul comptable. Il leur manque 3 millions d'euros. Ici, ça leur coûte un investissement 3 millions d'euros. Donc, ils ferment purement et simplement.
Pour moi, ce serait vraiment terriblement sinistre de fermer la fac de Béziers.
Je ne comprends pas que les facs ailleurs fonctionnent bien mieux qu'à Béziers.
Je suis un peu dégoûté par le ministère de l'enseignement supérieur qui ne donne pas de vraies solutions pour garder l'antenne ouverte, la sensation d'être prise en otage par la présidente de Montpellier pour partir à la chasse aux subventions.
Enfin, une pétition de 8000 signatures a été envoyée cette semaine à la ministre de l'enseignement supérieur pour demander le maintien de l'antenne universitaire de Béziers créée il y a 10 ans et aujourd'hui menacée de fermeture. Le certificat d'obtention végétale, ce nom ne vous dit peut-être rien, il est pourtant dans le collimateur de nombreux agriculteurs. Ce certificat oblige, en gros, les paysans à payer pour ressemer leurs propres graines. Une loi contre laquelle s'oppose farouchement la Confédération paysanne qui vient d'obtenir une première victoire dans son combat. En effet, la Chambre d'agriculture du Gard a voté une motion proposée par le syndicat agricole pour l'abrogation de cette loi. Les explications d'Henri Ferpé, membre de la Confédération paysanne du Gard, joint par téléphone par Radio Escapade.
On a proposé une motion. C'est une motion, hein, simplement une espèce de vœu, quoi, que la Chambre d'agriculture, disons du Gard, s'oppose à cette loi et demande une révision de cette loi, parce que le fond du problème, bon, c'est normal que les semenciers cherchent à être payés de leur recherche. Mais ce qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est que les semenciers sélectionnent des semences, mais au départ, ils ont pris des semences paysannes. Au départ, pendant des millénaires, c'est pas les semenciers qu'on sélectionnait les blés. Les blés, jusqu'à 200 ans, c'était les paysans qui ressemaient leur blé, qui sélectionnaient même grossièrement. Hein. C'était pas des sélections fines comme maintenant, mais il y avait quand même une sélection. On cherchait toujours à améliorer, on cherchait toujours les meilleurs blés. Et donc les semenciers sont arrivés, ils ont pris ces semences gratuitement, ils n'ont payé personne, ils n'ont pas payé les paysans, et puis ils les ont légèrement améliorés, hein, ils n'ont pas révolutionné les semences, ils ont continué l'évolution peut-être un peu plus rapidement, un peu plus scientifiquement, mais disons, au départ, ils n'ont pas payé les agriculteurs qui avaient fait tout le gros boulot avant. Hein, et maintenant, ils veulent faire payer les agriculteurs pour leur travail à eux. Voilà, donc nous, on pense que le droit de ressemer est un droit des paysans. Il n'y a pas de raison de payer pour ça. Voilà.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gard.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Le prix littéraire de l'Académie Cévenol, le Cabri d'Or, d'un montant de 5000 euros, a été remis vendredi dernier en mairie d'Alès à un Cévenol d'adoption, le romancier Christian Laborie, pour son récent ouvrage « Les Rives Blanches » publié aux éditions de La Cité. Le jury avait cette année à choisir entre 16 ouvrages, dont certains signés par des plumes reconnues comme Jérôme Garcin ou Homéric, ancien chroniqueur hippique du journal Libération. Et c'est à l'unanimité que le jury a donc attribué le Cabri d'Or 2013 pour le roman « Les Rives Blanches » dont l'auteur Christian Laborie nous développe le thème « Le retour des pieds noirs en Cévennes ».
C'est un roman qui traite du retour des pieds noirs en 1962. J'avais à cœur effectivement de traiter ce thème qui touche notre région, peut-être un peu moins que d'autres, mais si on se déplace à Nîmes, il y a une grande communauté de pieds noirs à Nîmes. C'est d'ailleurs quand j'ai appris qu'il y avait à Nîmes un pèlerinage, le pèlerinage de Santa Cruz. Et lorsque j'ai appris cela, je me suis dit, bon, c'est vrai que les pieds noirs ont une importance dans la région et donc j'avais envie de traiter ce thème d'histoire qui est très contemporaine et qui prête encore aujourd'hui à discussion. Hein. C'est un sujet un peu épineux. Hein. J'ai déjà eu d'ailleurs quelques remarques, mais ça, je m'y attendais parce que mes personnages dans Les Rives Blanches représentent à peu près toutes les façons de penser des Français de l'époque en 1962. Depuis ceux qui étaient franchement partisans de l'OAS et de l'Algérie française, et puis jusqu'à l'autre extrémité, ceux qui, parmi les Français, qui soutenaient dans les partis de gauche, chez les communistes notamment, de partisans de l'Algérie indépendante. Et entre les deux, il y avait différentes manières de penser. Et donc tous mes personnages représentent ces gens-là. Et moi, j'ai essayé de ne pas prendre parti. Bien sûr, ce n'était pas du tout mon rôle. En plus, j'ai une vision assez objective de la chose. Je vois ça avec un certain recul. Et en plus, à l'époque, j'étais jeune, j'avais 14 ans à l'indépendance de l'Algérie. Donc, c'est plus un travail d'histoire que j'ai entrepris avant d'écrire le roman. Mais j'avoue que je m'y suis beaucoup complu dans cette écriture parce que c'est un sujet, en fait, presque d'actualité.
Christian Laborie, c'est donc un travail d'historien, un travail romanesque. Est-ce que c'est aussi un travail qui a à faire avec vos propres racines ?
Non, pas du tout. Mes propres racines sont flamandes, donc non. Remarquez, si j'étais encore dans le Nord et si j'étais écrivain du Nord de la France, j'aurais pu écrire ce roman, je me serais attaché aux communautés pieds noirs du Nord de la France. Moi, je me souviens quand je travaillais à Billy-Montigny dans le Pas-de-Calais, j'avais un collègue pieds noirs avec qui j'avais eu quelques discussions sur son retour, sur son passé, sur son histoire. Donc, c'est vrai que l'histoire que j'ai racontée là peut très bien être transposée ailleurs, dans un autre cadre géographique, social, mais c'est l'histoire des pieds noirs, tout simplement, que j'ai voulu essayer de raconter.
Et le thème de l'étranger ?
Et le thème de l'étranger, alors il est peut-être plus spécifiquement cévenol. Je le traite d'ailleurs plusieurs fois dans mes romans. Je l'ai traité la première fois dans mon roman qui s'appelle Le secret des terres blanches, où cet étranger-là, cette fois, est un Allemand, un ancien prisonnier de la guerre 14-18. C'est vrai que dans les Cévennes, l'étranger, comme on dit, c'est quelqu'un de bien à part. Je me suis senti longtemps cet étranger, non pas au sein de ma propre famille d'adoption, celle de mon épouse, mais au sein de cette communauté qui m'entoure, qui ne m'a jamais considéré comme étranger d'une façon péjorative, hein, pas du tout, mais comme, au fond, quelqu'un qui n'est pas natif de la région. Et ça, je crois que les Cévenols l'ont bien en eux, bien ancré en eux. D'ailleurs, il suffit d'appartenir à une autre vallée que celle où vous habitez, et vous êtes un étranger aussi. Hein. Et vous ne parlez pas forcément tout à fait le même patois, j'allais dire, hein, même le mot patois n'étant pas du tout un terme péjoratif dans ma bouche.
Mais aujourd'hui, Christian Laborie, vous avez planté vos racines en Cévennes.
Oui, je crois qu'on est enraciné là où on a marcoté. Et en ce qui me concerne, je suis comme une plante qui a marcoté en dehors de son lieu d'origine.
Et c'est dans la même rumeur enthousiaste que la présidente du jury, la toujours dynamique Marion Mazoric, patronne des éditions Au Diable Vauvert, fit part de son indiscutable plaisir à l'attribution du prix littéraire Cévenol pour le roman de Christian Laborie.
Les Rives Blanches, ça c'est un livre incontestable. Je pense que ça va être un Cabri d'Or très fort, très romanesque. C'est vrai qu'on avait jusqu'à présent pas récompensé de romans de ce type, qui partent vraiment du terroir Cévenol, mais qui s'intéressent via un épisode de l'histoire peu connu et peu important, parce qu'en fait ça a concerné peu de monde, c'est le retour des pieds noirs dans le terroir des Cévennes. Et là c'est très très intéressant, cette histoire qui progresse à travers deux familles, typiquement cévenoles, qui commencent par de la méfiance, voire du rejet. Et puis vous savez, on est toujours le cévenol ou l'étranger de quelqu'un, et qui se conclut sur une fin extrêmement généreuse et la Cévenne qui est terre d'accueil terre de résistance et d'accueil. C'est un très beau texte, cette progression romanesque extrêmement intelligente, et on est face à un roman classique, On lâche pas, qui est un très bon roman. Je pense que c'est un roman populaire qui va remporter l'adhésion des lecteurs.
Le livre de Christian Laborie, Les Rives Blanches, dont c'est le 17e ouvrage, est le 3e à être récompensé par un prix littéraire et publié aux éditions de La Cité. C'était un reportage réalisé par Yves Defagot de Radio Grille Ouverte.
Carnet de région.
Gare.
Aude.
Lozère.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croussillon.
C'est la fin du carnet de région pour cette semaine, ce journal d'actualité proposé par plusieurs radios associatives du Languedoc-Roussillon. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour toujours plus d'actualités locales.